maintenant, voici l'émission de Véronique, le temps de tout se dire sur Jade FM.
Bienvenue sur Jade FM. Il existe de nombreuses manières de mettre à l'honneur un site, un monument, une ville ou autre destination insolite. Mon invité du jour transforme tout ce qui est déjà beau dans son contexte naturel en spectacle féerique et accessible à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière cet homme des coulisses et son association Territoire Imaginaire. Bonjour Christophe Guillot.
Bonjour.
Christophe, tout d'abord, pour vous présenter à nos auditeurs, quel a été votre cursus ?
Un cursus atypique.
J'imagine.
Très rapidement, en fait, moi j'ai été baigné dans le milieu de l'événementiel.
Oui.
Et puis baigné au bord de l'eau, je ne sais pas si ça se dit précisément. Mais j'ai, voilà, depuis 20 ans, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en valeur les paysages au bord de l'eau. J'ai tout d'abord commencé par mettre en valeur ces paysages, plus par la connaissance, puisque j'ai travaillé dans les musées maritimes, portuaires, à Nantes, à Dunkerque.
Mmh.
Et puis, très rapidement, je me suis aperçu que ce qui pouvait être intéressant, c'est aussi de travailler avec des publics qui ne fréquentent pas forcément les paysages, le patrimoine au bord de l'eau. Et j'ai commencé à imaginer des parcours artistiques révélant en fait ce patrimoine. Et voilà, j'en suis venu à créer une association qui s'appelait Rencontres du fleuve, qui mettait en valeur l'eau dans le département de la Loire-Atlantique de 2006 à 2010. Et puis
oui.
Là est venu Territoire Imaginaire, qui met en valeur les paysages au bord de l'eau, mais par des propositions artistiques et culturelles.
Oui. Et vous baignez également depuis pas mal de temps dans tout ce qui est conception d'événements, coordination de manifestations. C'est votre domaine de prédilection quand même.
Oui, je suis plutôt un créatif. J'ai pas mal d'idées.
Oui,
et
bien.
Puis après, j'ai appris à les mettre en œuvre sur le terrain au service du public.
Alors, dès 1992 et ce pendant 20 ans, vous avez eu un lien donc avec différents territoires, en passant de la Loire-Atlantique par le Rhône ou encore la région de Dunkerque. Quel vent vous a poussé vers toutes ces destinations ? Est-ce que ce sont des opportunités d'emploi ou l'envie de découvrir des sites différents ?
Les deux, je dirais.
Oui.
Il y a eu une opportunité, ça, j'ai travaillé au Château des Ducs de Bretagne à Nantes avec une personne qui m'a vraiment accompagné, qui était un peu mon tuteur, c'était Pierre Combe,
oui.
Qui était commissaire d'une exposition qui s'appelait Zone de la mémoire,
oui.
Qui mettait en valeur en fait, qui révélait le passé négrier nantais, donc son passé maritime portuaire. Et puis Pierre est parti à Dunkerque dans un nouveau musée qui se crée, qui s'appelait le musée portuaire. Il cherchait un animateur pédagogique. Voilà, j'avais fait mes preuves au Château de Nantes et puis je suis parti à l'aventure. À Dunkerque, tout là-haut,
oui.
Dans le Grand Nord, entre
oui.
guillemets.
Oui,
et
oui.
Puis, je pensais rester 2-3 ans en développant un service éducatif. Et puis, finalement, comme je vous disais tout à l'heure, je suis plutôt créatif. Et puis, j'en suis venu à coordonner les fêtes de la mer et du nautisme. Et puis, à imaginer différentes approches des paysages portuaires.
Oui.
Et puis, des collections du musée portuaire également. Et je suis resté 10 ans. Et de là, je suis revenu sur mon territoire parce que je suis un pur beurre nantais.
Et
du coup, je suis revenu à Nantes pour créer les rencontres du fleuve, comme je vous disais tout à l'heure.
Voilà, parce que ma question suivante était, vous avez une passion pour les paysages au bord de l'eau, d'où vient-elle ? Donc, entre autres, de votre origine nantaise.
Entre autres, oui, puis je pense que c'est aussi mon éducation qui m'a amené à m'intéresser aussi au bord de l'eau. Je pense que c'est le croisement aussi de plein de choses dans ma vie, dans ma vie personnelle, avec un papa qui était aussi déjà dans l'événementiel.
D'accord.
À l'époque.
Ah, ok. Ceci explique cela.
il a créé les Rendez-vous de l'air, si vous connaissez cette
oui,
manifestation.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Il y a exactement 30 ans. Et c'est vrai que, je dirais que grâce à lui, j'ai aussi pratiqué l'événementiel, puisque j'ai été bénévole au Rendez-vous de l'air à ses débuts.
Ouais.
Du festival et puis de là ma passion pour l'eau, l'événementiel, ma créativité, le, aussi aussi mon parcours, je l'ai pas dit, mais lié à l'éducation populaire. J'ai une formation aussi de, c'est ce qu'on appelait les BATEP à l'époque, ça s'appelle des BPGEPS aujourd'hui, ce sont des brevets d'état d'animateurs techniciens de l'éducation populaire. Et moi, ma spécialisation, c'était l'accueil des publics en milieu marin. Donc, encore une fois, au bord de l'eau. Et j'étais vraiment formé au début, c'est vrai, à transmettre la connaissance. Et puis, progressivement, j'ai glissé vers l'imaginaire parce que j'ai aussi compris qu'il y a des publics qui ne fréquenteront pas des médiathèques, des musées, des parcours de découverte. Et je pense que c'est aussi par cette entrée artistique, peut-être un petit peu plus ludique, qu'on arrive à toucher ces publics. Et aujourd'hui, c'est ce que je propose au travers de mes événements que l'on porte avec Territoire Imaginaire autour du patrimoine maritime fluvial dont on va parler.
Alors, de votre expérience artistique et culturelle, donc est née l'association Territoire Imaginaire en juillet 2012 précisément. Comment a germé peu à peu cette idée d'association, Christophe ?
Et après les rencontres du fleuve, c'était financé à 70% par le département. Oui. Et en fait, le département a changé de président en 2010. Il y a eu également la création du Voyage à Nantes. Et tout ça a fait qu'il y a eu une volonté politique d'arrêter la belle aventure des rencontres du fleuve. Donc on s'est retrouvés les trois permanents licenciés économiques. Mmh. Et de là, j'ai commencé à regarder dans le rétroviseur. Et voilà, j'ai vu ces 20 ans passer à travailler avec les publics, à mettre en valeur les patrimoines, les paysages au bord de l'eau. Et j'ai eu l'idée de créer l'association Territoire Imaginaire avec quelques personnes autour de moi.
Oui.
Le président de l'association à l'origine. Et puis mon objectif était de créer un nouvel emploi. Mm. Et ce qui s'est présenté 6 mois après la création de l'association. Mm. Puisqu'on a eu une première mission qui a été confiée par la ville de Saint-Nazaire qui crée une exposition qui s'appelait Siemens Club au Life, sous la base sous-marine.
Oui, oui.
Et une exposition de Marc Picavez qui portait un regard, c'est un vidéaste Marc, et lui portait un regard aussi sur le monde de la marine marchande et ses hommes et leurs conditions d'accueil dans les ports. Voilà, j'ai été chargé, l'association a été chargée de la programmation culturelle, artistique de cette exposition, puis ça a été le déclenchement d'une aventure qui nous mène à aujourd'hui.
Oui.
Avec ensuite des initiatives que l'on a portées, et notamment la création d'un projet autour des pêcheries au Carlet, de notre littoral, de la côte de Jade.
Dont on va parler amplement tout à l'heure, oui. Alors, l'objectif, un des premiers objectifs de Territoire Imaginaire, c'est de mettre en valeur des territoires, des sites, par des approches artistiques et culturelles. Concrètement, comment ça se passe, Christophe ? Vous repérez des lieux qui vous semblent intéressants à faire découvrir, ou ce sont des communes qui se mettent directement en rapport avec vous pour faire connaître leur territoire ? Comment ça se passe en amont, avant de mettre vraiment le spectacle en route ?
Vous l'avez un peu dit, en fait, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, on initie un projet parce qu'on a identifié un lieu qu'on a envie de valoriser. Mmh. Et là, c'est tout un montage économique parce que la culture, ça coûte. Il y a des hommes aussi derrière. Mmh. Et soit, on est aussi repéré aujourd'hui. De toute façon, il faut travailler en réseau. Et c'est vrai qu'on s'est repéré quelques fois, et puis donc du coup on nous sollicite, on fait des propositions, et puis elles sont acceptées ou pas. La plupart du temps, elles ont été acceptées.
Ouais.
Donc, soit initiative, soit des entre guillemets des sortes de commandes.
D'accord. Alors vous avez une équipe technique dans votre association qui est digne de celle d'un tournage de film, hein, quand même. Vous avez un directeur technique, vous avez de la production, de la scénographie, de la régie lumière, de la régie son. Tous sont là à l'origine de l'association ou ils se sont intégrés peu à peu ?
Alors il y a quand même une équipe qui vient des Rencontres du Fleuve.
Oui.
Je pense à Alain Aubin qui était directeur technique des Rencontres du Fleuve, Karine Baudry qui était mon assistante artistique et chargée de production, je pense à Philippe Barbert qui était régisseur lumière à l'époque, Jean-Michel Leduc qui était régisseur son. Enfin, c'est vrai que c'est une aventure qu'on avait commencé ensemble. Et puis après, quand il y a eu Territoire Imaginaire, bah, il y a eu l'idée aussi de nouveau de collaborer avec ces professionnels. Mmh. Et puis depuis, il y a aussi d'autres personnes qui se sont greffées aussi à cette équipe. Mais c'est vrai que oui, créer un événement en extérieur, bah, ça demande des moyens, parce que bah, c'est vrai que moi, mon travail, c'est de trouver l'argent, de communiquer, d'être en relation avec la presse, d'imaginer forcément aussi toute une programmation. Après, bah, il faut le gérer. Donc, il faut aussi une personne pour l'administration. Après, bah, il faut toutes les conditions d'accueil aussi des équipes techniques et artistiques. Bah, ça, c'est le travail d'un chargé de prod, de production. Et puis après, bah, c'est toute la mise en œuvre technique. Quand on arrive en plus en extérieur, c'est plus complexe que, je dirais, que dans une salle
qui est
déjà équipée. Une salle de théâtre, bon, voilà, il y a un plateau scénique, il y a l'électricité, il y a des rampes de barres de lumière, il y a du système son. Bah, nous, on arrive sur des sites qui sont naturels la plupart du temps, et puis bah, il faut tout inventer. L'électricité, par exemple, on l'a pas forcément à chaque fois, donc il faut l'amener.
D'accord. Et alors, chacun interagit dans la conception d'un spectacle?
Disons que c'est partagé, oui. C'est vrai que moi, je reste le directeur artistique qui invente. Maintenant, j'aime aussi beaucoup avoir des conseils, donc on se réunit, on échange et on trouve l'alchimie ensemble pour que bah, le projet plaise au public et puis qu'il soit bien mis en œuvre.
C'est un travail d'équipe avant tout.
C'est un travail d'équipe, oui. Ouais. Et on a plutôt intérêt à être solidaire dans nos projets, parce que bah, comme je disais, oui, c'est vrai que la culture ça coûte. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup moins d'argent qu'il pouvait y en avoir à l'époque. Donc faut travailler ensemble, mutualiser les moyens. Enfin, mais il y a une très bonne équipe, et d'ailleurs on le voit, parce que lorsqu'il y a des nouveaux artistes qui arrivent au sein de Territoire Imaginaire, qui s'intègrent dans notre programmation, bah, ils sont ravis en fait de cette ambiance,
oui,
que l'on retrouve.
D'accord. Alors Christophe, avant d'entamer la deuxième partie de cette interview, je vous propose ainsi qu'à nos auditeurs une pause musicale avec un morceau que vous avez choisi. Il s'agit de Cold Light du groupe After the Bees et qui sera entre autres diffusé lors de la soirée prochaine à Saint-Michel Chef-Chef. A tout de suite.
If you ever lose your mind in a cold night,
écoutez Jade FM et je suis toujours en compagnie de Christophe Guillot, directeur de l'association Territoire Imaginaire. Christophe, vous êtes également le fondateur de la première nuit des pêcheries au Carlet à Pornic, le 15 juin 2013. En quoi a consisté cette nuit ?
Déjà, un petit peu d'histoire. En fait, il se trouve que mes parents sont propriétaires d'une pêcherie au Carlet à la Boutinardière à Pornic.
D'accord.
Et mon père est également président de l'association pour la conservation des pêcheries de la côte de Jade.
Oui.
Et grâce à son initiative et puis aux administrateurs de son association, eh bien ils ont au fur et à mesure remis en place les cabanes de pêcheurs qui étaient un peu délabrées, qui étaient un peu abandonnées. Mmh. Et c'est vrai que ce patrimoine est réapparu au fur et à mesure. Et ils ont, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine de septembre, ils ont commencé à mettre en place des visites guidées de ces cabanes mystérieuses. Et bénévolement, j'ai contribué en 2012 en accueillant du public.
Oui.
Et j'ai fait le constat sur la pêcherie familiale que des gens étaient capables d'attendre 20 minutes, une demi-heure avant de rentrer dans cette petite boîte, cette petite cabane, de découvrir son environnement, parce que chaque cabane en plus est singulière, de découvrir aussi les techniques, l'histoire, ce que l'on pêche. Et les gens, en fait, étaient ravis en sortant de ces cabanes. Et c'est là où je me suis dit, mais là, on fait la transmission de connaissances, mais peut-être qu'on pourrait aller plus loin. Et puis, c'est là où mon métier et mon savoir-faire est arrivé, où je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, mettre en valeur ce patrimoine, mais la nuit. Et j'ai eu l'idée de créer la première nuit des pêcheries en France, sur mon territoire, à Pornic. Donc, pour cela, comme je vous disais tout à l'heure, il a fallu aussi aller chercher des financements, ce qui n'est pas facile, parce que quand on développe un projet qui est innovant, mais qui n'a jamais été mis en place, on manque un peu de crédibilité.
Bien sûr.
Mais cependant, j'ai quand même eu déjà, dès le départ, des partenaires, je pense notamment à la Fondation Crédit Mutuel, qui nous a soutenus et qui a cru dans ce projet. Et le constat, lorsqu'on a créé cette première nuit, c'est que dès le départ, alors qu'on n'avait que deux cabanes ouvertes, et qu'on mettait en lumière 5 ou 6 pêcheries, eh bien on a eu 1500 personnes pour la première édition.
Ah oui. Donc cette première nuit consistait à une mise en lumière des cabanes avec un fond sonore.
Alors l'idée, c'était de l'architecture d'une nuit des pêcheries, ce qu'on reproduit aussi aujourd'hui.
Oui.
C'est tout d'abord un lieu central. C'est un lieu où on accueille le public, c'est un lieu sur lequel le public peut se restaurer plutôt autour de produits de circuit court, maritime, bio, avec des commerçants tant qu'à faire plutôt du territoire. Et puis on peut boire évidemment un verre. Et sur ce site-là, on a en général une rencontre aussi avec les propriétaires des pêcheries, on fait un peu de transmission de connaissances. Et puis sur ce site central, où on peut réunir des centaines de personnes, on a en général un concert. Plutôt selon l'été folk ou dans l'esprit cabaret festif. Mmh. Et à la tombée de la nuit, eh bien, on propose au public de déambuler le long du littoral et puis d'aller à la rencontre de ce patrimoine que l'on voit tous les jours mais dont on ne prête plus forcément attention. Et donc nous, on illumine par des jeux de scénographie lumineuse avec des installations plastiques parfois ces pêcheries. Et les gens sont amenés à contempler. À s'installer sur un banc, au bord de l'eau, et puis de regarder autrement, en fait, ce patrimoine. Et on propose également de rentrer dans ces cabanes, le temps de 5-10 minutes, tout dépend des formes artistiques, et à l'intérieur des cabanes, eh bien, il y a des artistes qui accueillent le public, et on y retrouve des comédiens, des musiciens, des compositeurs, parfois une danseuse également, et c'est vraiment une expérience artistique que l'on propose dans ces cabanes. Là, on n'est pas sur de la connaissance. Je dirais qu'il y a les Journées européennes du patrimoine qui sont là pour ça.
Oui.
Nous, on est plus vraiment sur l'imaginaire que peuvent représenter ces cabanes.
Oui.
Et voilà, et tous les quarts d'heure, eh bien, les gens qui ont réservé à l'avance pour des raisons de jauge, de contraintes et de sécurité, mais tous les quarts d'heure, 5 personnes rentrent dans les cabanes.
D'accord, et c'est une autre manière de les voir.
Exactement, et le retour qu'on a eu d'ailleurs du public, c'est que finalement, ce patrimoine, on le voit tous les jours, mais on n'y prête plus attention.
Oui.
Et en fait, la dernière image qui est inscrite dans le dans l'esprit du public, c'est ce que nous, on a proposé par nos révélations de lumière, par l'émotion qu'on a vécue dans une cabane aussi.
Oui, puis c'est vrai qu'une pêcherie de jour et une pêcherie illuminée la nuit, c'est pas du tout la même vision.
C'est pas du tout la même perception. Même sensibilité. Et puis le fait de magnifier nos paysages, notre patrimoine, indirectement, c'est peut-être une façon aussi d'en prendre conscience que ce paysage, il est beau, et puis peut-être aussi de se poser quelques questions sur nos comportements au quotidien, pour préserver aussi l'environnement.
Tout à fait. Autre objectif de votre association.
Oui.
Alors, suite au succès de cette première édition, la communauté de communes de Pornic vous a demandé une manifestation plus importante et sur un territoire plus vaste, ce qui a donné lieu en septembre 2015 au rendez-vous de la route des pêcheries. C'est bien cela ?
C'est bien ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé,
Je vous en prie.
En fait, la première édition, comme je vous disais, on était sur un projet qui était innovant et certes ambitieux, mais venant de l'événementiel, je sais ce que c'est que de monter des gros projets jusqu'à des jauges de 30 000 personnes, comme j'ai déjà pu le faire à Nantes. Mais là, c'est pas du tout l'objectif. Hein. Là, on veut respirer aussi. On n'est pas. Le but, c'est pas se retrouver à 5 au mètre carré sur nos types de propositions. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a eu du mal à convaincre, je pense, à des collectivités du territoire pour obtenir un peu plus de financement. Et puis, c'est là où l'association s'est dit, mais finalement, des pêcheries au Carlet, il y en a sur les 6 communes de la communauté de communes.
Voilà, oui,
de Pornic.
Il y en a beaucoup.
Et on frappait à la porte de la communauté de communes. Et c'est là où on a rencontré Irène Geoffroy, la maire de Saint-Michel-Chef-Chef, qui, elle, a cru en notre projet. Mmh. Alors, il a fallu quand même que ça soit débattu en commission culture, en bureau communautaire. Donc en 2014, nous n'avons rien fait parce que on n'avait pas le montage économique. Et du coup, on est revenu avec un nouveau projet plus ambitieux en 2015 qu'on a appelé du coup la route des pêcheries du Pays de Réatlantique. Et c'est un projet qui a touché 8 communes puisqu'il y a Saint-Brévin et puis Corset qui se sont intégrés dans la manifestation. Enfin, je pense surtout avec l'association des pêcheurs au Carlet du Sud-Estuaire, qui en fait ont ouvert les portes de leur cabane pour des découvertes plutôt pédagogiques.
Alors là, il y a eu donc 2 journées entières d'itinérance et de visite découverte, et 2 soirées de spectacle.
Alors il y a une première date en 2015, c'est le 12 septembre, où on a tout d'abord à Saint-Michel-Chef-Chef organisé un concert sur la plage, d'un duo nantais, Marc Manvant et Benjamin Jarry, et qui ont joué à la pénombre. Et au fur et à mesure qu'ils jouaient, les pêcheries bien particulières d'ailleurs de Saint-Michel-Chef-Chef, parce qu'elles n'ont pas de ponton de passerelle, ont été illuminées. Et à la fin du concert, on a proposé une performance de light painting avec Julien Breton.
Oui.
Et les gens ont été amenés à contempler ces paysages. Et ça a vraiment été une réussite. D'ailleurs, pour la première expérience qu'on s'attendait à 300 personnes et on en a eu, enfin même pas 200, 300, oui. Et on en a eu 100 dès la première soirée. Et du coup, ça nous a amené le week-end suivant à la deuxième nuit des pêcheries qu'on a organisée de nouveau à Pornic, mais qu'on a délocalisé puisque là, on n'était pas à la Fontaine Breton, mais plutôt du côté de Montval, qui a été encore une super réussite. Là, c'était 2500 personnes qu'on a accueillies. Et puis, au lieu d'ouvrir 2 cabanes expérimentales comme la première édition, là, on en a ouvert 5. On a eu un taux de fréquentation de 90%, et puis on a fini le dimanche sur plutôt de ce qu'on appelait une opération qu'on appelait au cœur des pêcheries, où là on a ouvert 18 cabanes de pêcheurs de Corset jusqu'au Moutier, avec des municipalités qui possèdent des pêcheries, qui ont accueilli le public et puis des propriétaires privés qui ont bien voulu exceptionnellement accueillir du public le temps de ce week-end. Et là, ce sont 3000 personnes qui sont rentrées dans ces cabanes le temps des Journées Européennes du Patrimoine, parce que ça tombait au moment des Journées Européennes du Patrimoine.
Oui. Et les propriétaires des pêcheries emballés, j'imagine, par autant d'enthousiasme.
Autant d'enthousiasme, d'ouvrir exceptionnellement leurs portes. on a pas de mal à convaincre en fait les propriétaires. On leur dit mais ouvrez 4 heures de votre temps, votre cabane, votre patrimoine, et puis après vous venez chez vous. Mais en attendant, vous avez fait des dizaines, des centaines d'heureux pouvoir enfin rentrer. Pour moi, la cabane, en plus, c'est un peu un retour à l'enfance, quoi.
C'est un peu ce cocon, ce côté
magique, quoi, cette protection et ce mystère, surtout, de la cabane.
Oui. Et puis, un dialogue possible avec les propriétaires, j'imagine.
Un échange, et puis parfois, quand la marée est montante, puisqu'on pêche à marée montante, eh bien, la possibilité de pratiquer aussi. Donc, de manipuler le treuil.
Alors, vous proposez des expériences quand même très atypiques, hein, j'ai vu. Entre autres, entrevoir des poissons lumineux qui flottent dans l'air à la nuit tombée, se faire masser par le son d'une harpe, philosopher dans une minuscule cabane avec 3 sardines fantasques. D'où vous viennent toutes ces idées, Christophe?
J'ai tout un réseau d'artistes qui sont des personnes qui travaillent pour des compagnies ou individuellement. Et en fait, j'échange avec... moi, je suis pas artiste, en fait, je suis directeur artistique, donc j'ai beaucoup d'imagination et beaucoup d'idées. Par contre, je suis pas du tout musicien, je suis pas plasticien, je suis pas danseur. Et donc, en fonction des idées qui me viennent à l'esprit, j'appelle. Les artistes de mon réseau, et puis on échange, et puis il y a un travail d'écriture, et puis après il y a une restitution le jour J de la manifestation, avec une totale confiance, j'ai presque carte blanche, avec un cadre quand même défini, qui est donné aux artistes.
D'accord. Selon vous, chaque spécificité d'un territoire peut donner lieu à une proposition de spectacle bien particulière.
Bien sûr. Oui. Il y a des projets qui sont adaptables, mais certains qui viennent spécifiquement du lieu et du coup de l'inspiration que me donne ce lieu. C'est mon travail. Et c'est vrai que venant aussi du milieu des musées et de la connaissance, c'est vrai, quand j'arrive sur un territoire, je le cartographie, je l'étudie. Je me nourris aussi de connaissances historiques actuelles, je rencontre des personnes, je vois s'il n'y a pas d'ailleurs des associations qui peuvent pas collaborer avec nous, et puis de là après c'est le fruit de toute mon imagination qui fait qu'on arrive à créer spécifiquement pour un territoire un projet. Et puis c'est pareil, quand on intervient au mois de septembre, on n'a pas le même type de public que lorsqu'on intervient au mois de juillet.
Tout à fait. Au mois de juillet,
on est plus avec des publics, des touristes, des habitants qui sont aussi du territoire, donc on sera peut-être plus dans une ambiance plus festive, alors qu'au mois de septembre, ça sera peut-être plus contemplatif, plus doux. Je crois qu'on va pas dans la même chose.
Alors, une des caractéristiques de votre association qu'il faut souligner, c'est que tous vos projets se font avec la participation active d'intervenants locaux. Vous faites participer aussi bien les écoles que les associations, les artistes, les professionnels locaux, mais aussi les habitants.
Pour
vous, ces participations transversales sont primordiales.
Pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Comme je disais, je viens aussi de ce milieu de l'éducation populaire qui je pose un gros point d'interrogation sur les questions populaires d'ailleurs aujourd'hui avec les politiques mises en place, mais c'est une sur la parenthèse. Quand on voit la colonie de vacances par exemple de Pornic, je la ferme pas complètement, mais du coup qui vient de déménager, les colonies disparaissent au fur et à mesure, il y en avait plein à Saint-Brévin avant. Après ça me désole, mais c'est vrai que j'ai ces valeurs que j'ai depuis le début, qu'on m'a éduqué aussi dans ce sens-là. Et donc j'essaye dans mes projets de collaborer effectivement avec les territoires et autant que possible d'impliquer et de partager, de faire vivre une expérience avec les habitants. Donc effectivement, soit c'est avec une association que l'on peut le faire là, sur le territoire de Pornic, c'est notamment l'association pour la conservation des pêcheries de la Côte de Jade, avec qui on collabore. Mais il y a également eu l'année dernière un travail avec le centre de loisirs de Montval, l'association Lucas Ipso, où des enfants ont participé à un atelier. atelier déjà de découverte d'une pêcherie où ils ont pu pratiquer. Et puis dans un second temps, ils ont réalisé des petits bateaux en origami lumineux qu'on a intégré ensuite à la scénographie des professionnels. Après, c'est la difficulté, je vous le dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout d'abord, il faut qu'on trouve l'argent pour programmer, bien communiquer, pour que ça soit quand même une réussite. Et après, la valeur ajoutée, mais qui a vraiment toute son importance, hein, c'est pas péjoratif, c'est effectivement de pouvoir collaborer avec le territoire et puis d'arriver à mener des projets participatifs aussi. Mais tout ça, ça a coût. Faire venir une scénographe qui doit imaginer l'atelier, qui va se déplacer, qui va venir, ça représente un coût.
Oui, oui, mais quel résultat.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que parfois, il y a des personnes, des financeurs ont un peu du mal à imaginer que, je prends un exemple, un artiste qui va venir dans une cabane, s'il est seul, déjà, c'est un cachet net de 250 euros si on trouve les financements, donc ça coûte 300 euros coût employeur. Vous rajoutez des frais d'expert comptable, des frais de fonctionnement, des coûts de déplacement, plus toute la technique qu'il y a derrière, très rapidement, la cabane que vous aurez, elle va vous coûter 1000 euros, quoi. Et encore, il y a des projets qui coûtent beaucoup plus cher.
Oui.
Sinon,
c'est
par de collectivité. Mais voilà, faut se battre et convaincre. Mais je pense qu'on y arrive.
Vous savez faire, oui. Et puis maintenant, vous avez quand même des arguments pour.
Oui, oui. Et puis c'est tout bête, mais c'est vrai que la première nuit des pêcheries, on a tous été bénévoles. Oui. Dans le projet, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'économies, ça a permis aussi d'avoir les photos, que des personnes aussi viennent voir et en parlent. Et c'est ce qui a apporté une crédibilité, dont j'avais aucun doute d'ailleurs, dès le départ, mais pas pour tout le monde. Voilà. Mais je me souviens quand même d'une subvention qu'on a eue d'une collectivité qui était quand même de l'ordre de 160 euros pour la première édition. Je leur ai expliqué que moi, ça ne me remboursait même pas mes allers-retours en tant que bénévole pour l'association, parce que je suis basé à Nantes, mais je circule,
énormément.
Je suis pas rattaché à un territoire, mais la personne comprenait pas que dans une association, un directeur se faisait rembourser ses frais de déplacement.
Oui, oui.
Le maire, quand il va à Paris, quand il va je sais pas où, il va pas payer de sa poche, il va se ruiner, quoi.
Alors, je sais, Christophe, que vous intervenez, ainsi que l'association, sur toute la région des Pays de la Loire, mais aussi sur les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre territoires et départements divers par rapport au spectacle, hein? Par exemple, les pêcheries de la Charente-Maritime, est-ce qu'elles ont quelque chose de différent de celles de la Côte de Jade?
Elles sont différentes,
oui.
Effectivement.
Oui.
Déjà, il y a un premier paramètre, c'est que lorsqu'il y a eu la tempête de Xynthia,
oui.
90% en fait des pêcheries, alors eux ils appellent ça des carrelets déjà, culturellement c'est la même chose, mais c'est pas le même mot.
D'accord.
Et c'est vrai que les carrelets charentais en fait, ont tous été retournés et tout ce patrimoine a disparu en l'espace de peu de temps. Et du coup il y a eu tout un travail avec des associations homologues à celles de la conservation des pêcheries de la Côte de Jade. Il y a une association en Charente-Maritime qui s'appelle l'association des carrelets charentais qui s'est mobilisée avec ses adhérents, ils sont 350. Pour aller voir les collectivités et puis pour reconstruire les carrelets. Si bien qu'aujourd'hui, c'est vrai que toutes les pêcheries au carrelet par là-bas sont plutôt neuves. Et elles ont une particularité aussi, c'est qu'elles sont peintes. Beaucoup sont peintes, alors que nous, on est plus dans des matériaux bois, mais vernis. Mais il n'y a pas forcément cette couleur. Okay. Et puis après, quand on va en Gironde, on est plus sur... parfois un peu du briquet de broc, c'est fait maison. Parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui peuvent vous construire une pêcherie, mais il y a aussi des gens qui construisent leur propre pêcherie. Parfois des pêcheries, oui, qui ont leur... leur particularité, leur singularité, de toute façon, elles sont toutes singulières. Mais différentes. Et puis parfois, si vous êtes à Saint-Brévin... bah, chez nous, on va avoir des passerelles, des pontons très longs,
de
près de 80-100 mètres de long, alors que vous allez sur d'autres territoires, bah, la passerelle, elle va faire 10 mètres, quoi.
D'accord.
Tout dépend des sites. Et puis, il y a des cabanes, normalement, il y a une réglementation. C'est-à-dire, quand je dis qu'on est propriétaire d'une cabane, en fait, on est propriétaire des meubles, on peut dire, mais par contre, on n'est pas propriétaire du sol. Donc, c'est une concession qui est accordée par l'État, ce qu'on appelle une AOT, une autorisation d'occupation temporaire, qui est valable 5 ans, qui est renouvelable.
Oui.
Mais on peut pas faire n'importe quoi aussi. C'est-à-dire que si vous voulez vous repérer une concession qui est libre, ben, vous voulez construire votre cabane, vous allez devoir déposer un permis de construire et être dans des normes bien, bien particulières, parce que votre cabane ne doit pas faire plus de 9 mètres carrés. Le ponton, la terrasse, parce qu'il y a des petites terrasses aussi aujourd'hui, il y a une certaine réglementation aussi. Ben, sinon, on arrive à des cabanes un peu démesurées, comme j'ai vu à Bordeaux, où j'ai vu un peu des studios.
Ah oui.
Des cabanes de 30 mètres carrés, quoi.
Ah, oui, là, ce sont des cabanes légèrement améliorées.
Oui, elles sont bien cachées.
Est-ce que vous avez des projets internationaux, Christophe ?
Bah, écoutez, en fait, il se trouve que c'est vrai que cette première nuit des pêcheries en France de 2013 nous a amené à voyager, puisqu'on a, j'avais fait le constat qu'il y avait des pêcheries au Carlet entre Nantes et Bordeaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on intervient dans le Médoc, dans le pays de Blaye, en Charente-Maritime, du côté de l'estuaire de la Charente, faut rapport des barques notamment. Il y a la Vendée, je pense à la Barre de Mont, qui devrait aussi accueillir un projet l'année prochaine. Et on est en train de créer une sorte de route des pêcheries au Carlet de la côte atlantique. Mais on a aussi fait le constat que des pêcheries au Carlet, la technique, on la retrouve aussi en Croatie, en Italie. Il y en a en Asie, du côté du Vietnam.
Ah, d'accord.
Donc, soyons utopiques. Peut-être qu'on voyagera et ce sera une route des pêcheries au Carlet et du chef international. Qui sait.
Mais vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Je ne savais pas qu'on pouvait trouver des pêcheries dans ces pays-là. Bon.
Si, il y en a, mais il y a très peu d'informations, de documentation, en fait, sur le sujet. Et on est également en train de réfléchir. On avait parlé avec la Société des historiens du Pays de Ré. Et puis, une personne qu'on connaît du CNRS, la Loïc Ménanteau, pour, pourquoi pas réaliser un ouvrage aussi autour de la connaissance de ce patrimoine, parce qu'il n'y a que des bribes d'informations qu'on retrouve, mais il n'y a pas de regard global sur ce patrimoine. Donc ça peut faire l'objet aussi d'un ouvrage.
Oui, certainement. Ouais.
Ou d'un webdoc, enfin voilà, il y a plein de formes possibles.
Alors, la saison 2016 est un grand cru quand même, hein. Elle va débuter dans le Pays de Ré par une soirée la prochaine à Saint-Michel-Chef-Chef,
oui,
qui va se dérouler sur 3 volets, si j'ai bien compris. Un concert sur la plage,
oui,
un spectacle pyrotechnique et une mise en lumière donc des pêcheries.
Tout à fait. Mais en fait, là, comme je vous disais l'année dernière, dans le cadre de la route des pêcheries, on était venu à Saint-Michel-Chef-Chef et ça a été une réussite, ça a beaucoup plu. Et la ville de Saint-Michel-Chef-Chef nous a demandé cette année de revenir dans le cadre de sa programmation estivale, bien d'imaginer une soirée. Et donc cette soirée, bien c'est un concert sur la plage folk avec le groupe, le duo nantais After the Bees. Et puis elles vont jouer à 21h30, donc à la pénombre. Et nous, on va illuminer les pêcheries en arrière-plan comme on l'a fait l'année dernière. Et à la dernière note de l'harpe et de la guitare, eh bien, il y a un spectacle pyrotechnique qui va être lancé par la compagnie Féerie, qui est une entreprise de pyrotechnie nantaise. Et nous, on va jouer aussi avec nos jeux de lumière en même temps que le spectacle pyrotechnique. Et une fois le feu terminé, eh bien, nous, on illuminera les pêcheries jusqu'à minuit.
D'accord. Donc, premier rendez-vous. Le deuxième aura lieu les 3 et 4 septembre. Et cette fois, c'est Pain-Bœuf qui sera mis en lumière avec un gros programme des déambulations théâtrales, mais aussi des expériences sonores et plein d'autres manifestations.
Oui, tout à fait. En fait, la ville de Pain-Bœuf nous a sollicité, territoire imaginaire, pour imaginer une nouvelle manifestation culturelle et artistique autour de la ville. Et voilà, on se connaissait des rencontres du fleuve parce qu'on était, était passé à deux reprises à Paimbœuf. Mmh. Et du coup, on a fait une proposition qu'on a appelée Détour à Paimbœuf, mmh. dans l'idée que bah, c'est vrai que les gens, quand ils viennent de la Terre des Terres, bah, qui vont vers Pornic, Saint-Brévin, bah, ils passent à côté de Paimbœuf sans forcément y rentrer. Donc nous, on va inviter le public à faire le détour et d'aller donc dans, découvrir la ville. Et puis détour, c'est vrai que dans le nom, on a mis après détour à, entre parenthèses un S. Oui. L'idée, c'est aussi de faire les détours de la ville. La ville de Paimbœuf a un patrimoine qui est exceptionnel.
Ah, tout à fait.
C'était l'ancien avant-port de Nantes et on y retrouve beaucoup de traces, notamment dans l'architecture, le patrimoine bâti. Et donc le concept de détour à Paimbœuf, eh bien, c'est de proposer au public des balades et des escales artistiques dans la ville. Et pour cette première édition, il y aura 5 balades de proposer et 2 escales artistiques. Et puis une soirée aussi sur un lieu qui n'est plus forcément fréquenté par par le public, c'est le Champ de Mars, qui est plutôt à l'intérieur des terres. C'est vrai que souvent les manifestations se sont déroulées vers le côté Loire, mais là l'idée c'est aussi de faire revivre ce fameux Champ de Mars de la ville. Et donc dans le cadre de la programmation, eh bien on va avoir une compagnie qui s'appelle Théaru qui va nous vendre la ville de manière décalée. On a la compagnie Joseph K avec ses contre-vides de Jérôme Poulain sur des vides complètement burlesques où on fait écho aux politiques de la ville de la mairie. On a également une balade à trois dans l'audiomobile avec une écoute au casque et puis un lecteur qui va vous proposer la littérature notamment en fonction aussi en relation avec le patrimoine de la ville. Et puis, il y a un personnage que j'ai déjà programmé sur différents sites, je pense notamment à Bruyères, c'est Johnny Tanette, sorti d'Indiana Jones, qui va nous emmener du côté de la tour de la Pierre à l'œil, et pour une balade complètement décalée, il va nous faire écho du radeau de la Méduse, puisque tout le monde ne le sait pas, mais la Méduse est un bateau qui a été construit à Paimbœuf.
Ah bon.
Et donc, on va en parler au travers de cette histoire. Et puis pour finir, une balade plutôt culturelle avec Thibault Labatte. On a appelé ça Explo. En fait, c'est une exploration urbaine. On va inviter le public à venir à vélo le dimanche matin, 9h30, et puis partir déambuler dans la ville pendant 3 heures. Et l'idée d'Explo et de ce concept, c'est qu'il n'y a pas de guide en particulier. Thibault, lui, il est animateur, c'est-à-dire qu'il estime que tout le monde a la connaissance de la ville, chacun a quelque chose à apporter. Et donc, du coup, les gens vont se balader, donc ils vont partir d'un point A et puis déambuler, puis arriver au point B, il y en a un qui va dire bah ouais, mais attendez, moi je connais aussi tel endroit, vous le connaissez, vous, j'ai des choses à dire parce que ma grand-mère, ceci, cela. Et puis, du coup, bah, tout le monde va partir vers cet endroit-là, puis de là, il y en a un autre qui va dire bah tiens, mais venez voir par là-bas. Et en fait, on va circuler comme ça dans la ville, mais il n'y a pas de parcours établi. C'est. Selon les réactions du public.
Du public.
Des personnes qui sont là.
D'accord.
Voilà. Et puis, pour finir, 2 escales artistiques où on va proposer pendant tout le week-end d'aller premièrement découvrir la petite chapelle de l'hôpital. Avec d'ailleurs, la ville a un projet de réhabilitation de ce patrimoine avec un financement participatif. Et là, il y a Julien Breton, notre calligraphe lumineux, qui interviendra et qui nous proposera donc une sensibilisation au light painting avec la calligraphie arabe dans une petite chapelle bien de chez nous. Et une autre escale qui sera au niveau du phare, le petit phare de Paimbœuf, avec une lecture sonore à 360 degrés avec l'artiste Sandy Ralavandrini. Et puis le soir, je vous disais, le Champ de Mars avec une soirée, un banquet des Balkans avec des tablés colorés, possibilité de se restaurer, de boire un verre et puis d'assister à un concert de Balkanic Orchestra. 9 musiciens qui vont apporter de l'énergie à la soirée.
Bon, super programme. Et alors enfin, le dernier rendez-vous 2016 que votre association organise, alors énorme rendez-vous, c'est la deuxième route des pêcheries qui s'étale sur 10 jours cette année.
Oui, bah on est un peu ambitieux.
il faut.
De la première nuit des pêcheries, en 2013, on est passé à une route pour la deuxième fois, donc après 2015. Et là, en fait, c'est une manifestation qui va se dérouler en 4 temps. Le premier temps, en fait, c'est du 15 au 18, où on va inviter le public à venir rêver sur la plage de l'Incastrial, à Oumoutier-en-Ré, où des personnages du collectif Lucilum, qui sont des scénographes plasticiens, ils vont nous installer des personnages de statues à échelle humaine autour de la plage, des pêcheries, et on appelle ça les rêveurs de pêcheries, et on va venir rêver à côté de ces personnages, sachant qu'on pourra les découvrir de jour, mais également de nuit, puisque l'idée c'est aussi de les illuminer à la nuit tombée. Et cela pendant 3 jours. 17-18 septembre, eh bien, ce sont les journées européennes du patrimoine. Donc comme l'année dernière, on va rouvrir une bonne quinzaine de pêcheries entre Corset et puis les Moutiers, avec voilà, toute une possibilité d'itinérer et puis d'aller découvrir toutes ces pêcheries. Je sais qu'il y en a qui le font d'ailleurs. Ils vont pas, en général, le public ne va pas visiter une seule pêcherie. En général, ils aiment bien découvrir plusieurs, de manière à faire aussi un peu la différence.
Et puis connaître plusieurs communes.
Voilà, exactement. Et puis pour finir le dernier week-end, 24-25 septembre, donc le 24 septembre, on sera à Pornic de nouveau à Montval, rue René Guicadou. Et là, on va organiser la troisième nuit des pêcheries.
Oui.
Avec des nouvelles propositions artistiques, nouveaux concerts, une nouvelle programmation. Et pour finir, ce qui sera aussi nouveau cette année, c'est à la Plaine-sur-Mer. Eh bien, on va proposer au pied de la pêcherie municipale, sur la plage
de la Gogogne,
on va proposer ce qu'on appelle des voyages sonores. Le concept des voyages sonores, eh bien, c'est le temps d'un après-midi, entre 14h et 18h, le public peut s'installer tranquillement dans les transats, en l'occurrence sur le sable, assister à des lives de musiciens qui vont nous emmener tranquillement vers la sieste, des instants vraiment de douceur, de lenteur. Et on pourra également rentrer dans des cabanes et rencontrer des artistes pour des expériences artistiques très douces. C'est le but de ces voyages sonores.
Un magnifique programme en perspective, et puis qui va certainement amener beaucoup de monde, parce qu'il y a une telle pléthore de manifestations diverses, sur des sites différents, que tout le monde peut y trouver son compte.
C'est le but.
Mais oui.
De faire découvrir autrement notre patrimoine et nos paysages. Puis c'est vrai que j'ai employé un terme qui est la lenteur. C'est vrai qu'on court aussi tout le temps dans notre vie d'aujourd'hui. On est toujours à l'affût d'une information. Nous, on aime bien la lenteur aussi et proposer au public de se poser.
Oui, vous obligez les gens à se poser une fois.
Exactement.
Oui. Pour vous, Christophe, est-ce qu'il y a toujours moyen d'attirer le public sur un lieu où certains sites sont plus prédisposés que d'autres à le faire?
Non, pour moi, tous les lieux sont
beaux et à mettre en valeur.
Oui, après, tout dépend aussi de la programmation que l'on peut, que l'on imagine. On peut très bien mettre en valeur du patrimoine industriel qui d'apparence n'a aucune valeur, qui n'est pas jolie, etc. Mais finalement, par une proposition, je sais pas, de lumière, je pense notamment aux forges de Trignac, sur la rive nord. Mais on a Territoire Imaginaire à coordonner le centenaire de la ville de Trignac en 2014. Eh bien, on a mis en lumière les forges de Trignac qui passaient du rose envers le bleu, le jaune, il y avait toutes sortes de couleurs et les gens étaient extrêmement étonnés de voir ce patrimoine embelli. De cette façon. Donc pour moi tous les paysages peuvent être un beau support d'expression culturelle artistique.
Oui. Et puis écoutez, moi je vais terminer en disant que vous êtes d'une grande générosité, parce que en fait tous vos souvenirs d'enfant, vous les partagez maintenant avec le public. Grâce à vos soirées et illuminations dans les pêcheries.
J'aime beaucoup rêver. J'ai un petit peu la tête d'un enfant, oui, quelquefois. J'ai grandi, je suis rationnel quand même.
Non, mais c'est bien de le partager avec tout le public. Un grand merci, Christophe, pour cette mine d'informations et puis de nous avoir fait partager votre passion. Moi, je vous souhaite beaucoup de succès pour toutes ces manifestations de territoire imaginaire et continuez longtemps de nous faire rêver. Voilà.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Christophe, et à très bientôt.
À très bientôt.